L'otaku, c'est celui ou celle qui vit manga, qui mange manga, qui s'habille manga, qui pense manga, qui mange manga, et qui a même une journée mondiale de l'otaku le 15 décembre. Derrière cette journée mondiale, on a ce rapport au manga qui est très particulier en France, puisque nous sommes les deuxièmes consommateurs de manga derrière les Japonais. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez VTC. Nos deux invités sont dans le monde du manga. L'une s'appelle Carole Fabre, l'autre s'appelle Aikel Benyakoub, et tous deux travaillent pour la maison d'édition manga Mangetsu. Alors dans cette interview, nous parlerons bien sûr du manga, mais aussi comment garder sa passion du manga quand on travaille dans le monde du manga. Bonjour Carole, bonjour Aikel.
Bonjour Manu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Quel est votre moyen de transport préféré pour vous déplacer à Paris et en Île-de-France ?
Moi, j'aime beaucoup les transports en commun, mais comme c'est un peu bizarre en ce moment, ouais, je privilégie le vélo et c'est une très bonne alternative.
Alors moi, il y a quelques mois, je t'aurais répondu le métro parce que c'est ce que je prenais principalement. Mais là, je prends le TER et même s'il y a des galères, c'est quand même plus pratique et plus confort.
Notre précédente invitée, Noémie Tati, donc journaliste, créatrice de mode et cartomancienne, a une question pour vous.
Comment vois-tu l'évolution de ton art dans 10 ans ?
Ça fait débat ce genre de question, sachant qu'elle a l'intelligence artificielle qui survient de plus en plus, surtout dans le domaine du graphisme, après d'un point de vue éditorial, enfin du texte. Je pense que Carole répondra. Moi, de mon côté, je trouve que dans 10 ans, sachant que je suis graphiste, ça va, au niveau de la technologie et l'évolution, il y aura, ça va que s'améliorer, mais je suis persuadé qu'il y aura toujours un humain pour chapeauter tout ça derrière. Donc en fait, tous les moyens qui seront mis en place pour justement la direction artistique et le graphisme dans sa globalité, tout ce qui est plus ou moins nouvelle technologie, ce sera pour aider la façon de faire les couvertures, les jaquettes, ou même juste globalement de faire un poste, des sites, etc. Donc voilà, je pense que on est plus sur une évolution qu'on a eue, on va dire, pendant les 10 dernières années déjà, avec les différents logiciels qui ont été mis en place. Après, pas d'inquiétude en soi.
Pour l'évolution, d'un point de vue éditorial, je me disais peut-être pour les 10 prochaines années, bah, y a moyen que l'intelligence artificielle, justement, soit de plus en plus présente. Ce que je pense notamment dans le milieu du manga, là, il y avait des éditeurs japonais, il me semble que c'était Shueisha, si je dis pas de bêtises, mais en fait qui avait fait appel à l'intelligence artificielle pour lettrer leur manga. Enfin, en gros, le lettrage, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on met le texte dans les bulles et en fait qu'on sous-titre les onomatopées japonaises. Et donc ça avait fait vraiment un gros débat parce que les gens avaient dit on est des lettreurs, on travaille dessus et on veut pas être remplacé par une intelligence artificielle qui fait un taf hyper mécanique et où il y a pas d'œil humain qui repasse dessus. Donc je pense que de ce point de vue-là, peut-être que ça peut se développer dans un souci d'économie. Après, pour l'art en tant que tel,
ils ont déjà essayé de faire un manga en intelligence artificielle et c'était pas ouf.
Enfin... Oui. Avec Osamu Tezuka, il me semble, ouais. Qui est décédé il y a bien longtemps, justement, ils ont ressorti une œuvre comme ça. Et je crois que ça marche pas non plus des masses. Mais après, dans tous les cas, ça peut, sinon d'un point de vue humain, ça peut que s'améliorer parce que les auteurs, ils se nourrissent de tout ce qui leur arrive, des évolutions de la société. Je pense que le Covid, ça a eu un impact aussi sur beaucoup d'auteurs, donc pour moi ça peut que s'améliorer dans le bon sens et il y aura toujours plein d'histoires différentes.
Aikel, Carole, vous travaillez dans le monde de l'édition manga chez Mangetsu. Vous faites quoi chez eux ?
Chez Mangetsu, alors je suis éditrice, donc je suis là depuis 2 ans et demi dans cette entreprise et mon rôle en gros c'est un peu de faire la coordination éditoriale entre tous les gens qui interviennent sur un manga. Parce que souvent on n'y pense pas, mais en fait un manga c'est beaucoup d'acteurs qui interviennent dessus, ça prend du temps, enfin on sort pas un manga hyper vite, enfin on aimerait tous, hein, mais bon on a tous des emplois du temps chargés, et donc en gros nous c'est, ouais, moi c'est, je m'occupe vraiment de la coordination éditoriale entre plusieurs personnes, donc il y a le traducteur qui va traduire le manga, parce qu'il faut bien traduire le texte du japonais vers le français. Il y a le correcteur, donc qui va intervenir sur la correction du manga. Alors, certaines maisons d'édition ne travaillent pas forcément avec des correcteurs, mais nous aussi. Enfin, ils font tout en interne. Donc, qui va, lui, s'occuper de la qualité du texte, enfin tout ce qui est orthographe, syntaxe, grammaire, mais aussi de la cohérence au niveau de l'histoire, au niveau du ton, du style, des personnages, enfin voilà un peu de l'univers en fait de la série, et aussi des lettreurs, donc comme je disais, qui font en fait la maquette, en tout cas chez nous c'est ce qu'ils font, ils font souvent la maquette du manga parce que c'est un fichier quoi. Et en gros, ils vont mettre le texte dans les bulles et ils vont aussi sous-titrer les onomatopées japonaises. C'est souvent, beaucoup de lettreurs sont graphistes parce qu'il y a vraiment des retouches graphiques dessus à faire. Et nous, on leur demande surtout pour les onomatopées de se rapprocher le plus possible en fait, de la version japonaise. Et puis, on est évidemment, nous aussi, en relation avec les Japonais. Parce que on n'est jamais en contact direct avec l'auteur. On passe par des agences, en gros, qui font le lien entre l'éditeur japonais et l'éditeur français. Et après, l'éditeur japonais va lui-même parler à l'auteur. Et donc, on est en lien avec des agents. Et en fait, à eux, on leur envoie, nous, tout ce qui est couverture et jaquette. Donc la jaquette, c'est le... Je sais pas comment dire.
C'est, on va dire, la veste du bouquin dans les mangas.
Ouais, c'est ce que vous retirez en fait quand vous lisez un manga. Et après, on leur envoie aussi nous la petite page des crédits qui est à la fin du manga. Et ça, faut savoir que ouais, tout est validé par les éditeurs japonais. En gros, toutes les couvertures que vous trouvez en librairie, elles sont validées par eux. Et ça veut dire que oui, ils ont dit ok, vous pouvez imprimer votre manga comme ça.
Moi, je suis graphiste, donc une des bonnes parties qu'elle avait expliqué, ça va être mon boulot. Alors bien entendu, j'ai les capacités de faire certaines choses, mais ça veut pas dire que je les fais tous. Principalement, je vais faire ce qu'on appelle les jaquettes et les couvertures des mangas, comme elle avait expliqué Carole. Nous, on n'est pas vraiment de l'édition à proprement parler, on va être plus ou moins du publishing, surtout dans du manga, on récupère les droits d'une licence qui appartient à une autre entité éditoriale qui vient d'un autre pays, donc on récupère ces données, donc les natifs, et on va plus ou moins faire ce qu'on appelle les jaquettes et les couvertures, soit pouvoir faire une couverture complètement exclusive et une jaquette complètement exclusive, soit on devra faire du copier-coller, ça dépend de l'ayant droit, et on aura toujours une liberté artistique certes, mais on devra plus ou moins devoir faire comme l'ayant droit nous demande ou accepte si jamais on propose certaines choses, parce qu'il y a aussi cette possibilité de proposer plusieurs choses. Donc dans ces choses-là, me concernant en tant que graphiste, il y a par exemple des jaquettes alternatives, des kits presse que je vais devoir designer ou autre. Certes, par moment, on va retrouver aussi des primes à l'achat ou alors des objets complètement qui accompagnent le quotidien de certains de nos collaborateurs comme les libraires, donc des PLV, des stands, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Moi, je vais m'amuser à plus ou moins faire ça. Des effets de couverture comme ce manga qui sent le teint. Là, c'est parti. J'aime bien le sortir parce que c'est vraiment ouf. Ouais, regarde, sens-le, il sent le teint. C'est un manga qui sent le teint.
Et là, bam. Ah oui, c'est vrai, il sent.
Ouais, il sent le teint. Alors, faut pas le mettre dans une casserole et le cuisiner. C'est une erreur. Et ne vous inquiétez pas, toutes les librairies de France ne puent pas le teint, bien heureusement.
Quel est votre premier souvenir du manga ?
Dragon Ball. C'est ça. Ah ouais, et toi ?
Moi, premier souvenir du manga, moi je pense comme pour toi, en vrai moi c'est par les animes en fait. Je pense que moi c'était Fruit Basket en dessin animé quand j'étais en CE1, donc j'avais 7 ans et diffusé sur France 4.
Comment concilie-t-on travail qui est aussi une de vos passions ?
Moi, j'arrive pas, c'est trop compliqué pour moi. Mais Carole, elle peut y répondre parce qu'elle arrive vraiment à mettre des
mots. Non, mais en vrai, c'est assez dur. Enfin, je trouve que quand tu fais un métier passion, c'est dur parfois, en fait, de voir où est la limite entre ta vie privée et ta vie pro. Parce que forcément, tu fais un truc que t'aimes. Bosser dans ce milieu, c'est vraiment un rêve de gosse. Hein. Enfin, moi, si on m'avait dit il y a 10 ans que je travaillerais dans le manga, je l'aurais jamais cru. Et du coup, bah, je sais qu'on a souvent beaucoup tendance aussi à se donner à fond, ce qu'on fait toujours et tout. Mais du coup, ça peut parfois te mettre un peu à un frein parce que tu dis, ah ouais, bah, je bosse beaucoup, mais je prends pas du repos pour moi. Enfin, moi, je sais que pas un des défauts, mais une des déformations professionnelles que j'ai eues depuis que je bosse dans ce milieu, donc ça fait 5 ans, bah c'est que quand je lis en fait des mangas pour le plaisir, bah j'ai toujours un peu la déformation professionnelle de me dire « Ah, ça, j'aurais mis ça comme texte. Ah là, la virgule, elle est bien placée. » Alors, je l'ai aussi en lisant des romans, mais un peu moins. Et je sais que ouais, dans le manga, parfois, je me dis « C'est hyper dur, en fait, de déconnecter un peu et de se dire « Bah ouais, c'est pas du taf, tu prends du plaisir pour toi. »
On a deux questions d'auditeurs. Alors, Kaina vous demande, est-ce que savoir parler ou comprendre le japonais, c'est un plus dans votre métier ?
Alors, d'un point de vue éditorial, ouais, ça peut être...
Bonjour Kaina.
Bonjour Kaina, oui, effectivement. Bonjour Kaina, on t'aime très fort. Bah oui, effectivement, parler japonais, c'est un plus... parce que bah, notamment quand on est directeur ou directrice éditoriale et qu'on sélectionne les titres, donc là nous c'est pas notre c'est pas mon cas ni celle de mes collègues. Parler japonais c'est un plus parce que bah, effectivement tu peux découvrir encore des œuvres bah, qui n'ont pas été traduites par des fans en anglais ou autre. Parfois pour être sûr qu'une maison d'édition s'y est pas forcément intéressée, ça peut être bien, on va dire, pour avoir un peu d'avance. Après, c'est pas une obligation, parce qu'il y a pas mal de directeurs ou de directrices éditoriaux ou éditoriales, du coup, en France, dans le manga, qui parlent japonais. Nous, côté édito, ça peut être bien. Si, mettons, bah, quand nous, on corrige le texte, on se dit « Ah, bah là, ça sonne bizarre, tu peux aller vérifier ». La traduction, enfin le texte d'origine du coup en japonais pour voir si ça coïncide bien. Mais bon, nous c'est pas notre cas, malheureusement. Donc bah, souvent dès qu'on a un doute en fait on se tourne vers le traducteur ou la traductrice quoi pour être sûr.
En tant que graphiste c'est pas nécessaire. Après ce qui est nécessaire en revanche c'est de comprendre les codes des japonais. C'est une différence notable dans le sens où... dans l'adaptation de jaquette et couverture, la première chose qui vous frappera si jamais vous allez au Japon et que vous baignez dans l'univers du manga, c'est que au Japon, culturellement, mettre énormément d'informations dans une couverture principale, c'est, on va dire, le béaba du pays, là où nous, on est plus dans la simplicité. Donc le mieux, c'est de comprendre et de condenser les informations qui seront visibles dans une jaquette et d'essayer de les occidentaliser. J'aime pas trop ce mot, mais en gros, c'est un peu le truc. C'est le cas avec certains titres comme Golden Guy, qui est une série qui est sortie chez nous. Nous, on aura juste l'atomaison, le nom de la série et le nom de l'auteur. Là où, côté japonais, on va retrouver 3 fois le nom de la série sur la couverture, 2 fois le nom de l'auteur. Avec une tomaison qui est énorme, une écriture verticale alors que nous on a l'habitude de lire en horizontal, et là faut adapter, faut dire qu'est-ce que je fais pour avoir la même identité tout en étant, on va dire, proche du public francophone. Là pour le coup, il y a un travail d'adaptation similaire à ce qu'un traducteur peut faire sans qu'on ait la traduction qui soit mise en place.
Elliot, sur quelle œuvre vous avez aimé travailler ?
Alors bisous Elliot, c'est tout récent parce que c'est là où je me suis vraiment amusé de ouf et que je me suis lâché pour une première fois niveau direction artistique et en plus sur les réseaux, les gens ont bien apprécié, j'étais content. C'est Blue Flower and the Ceramic Forest de Yuki Kodama, qui est une autrice très connue du genre Josei et Shoujo. Je crois qu'elle a fait quelques Shoujo, il me semble. Donc elle est connue pour plein de titres comme Kings of the Slope, ou Okami no Musume, je crois que c'est ça.
C'est sa dernière série.
Ouais, date, c'est ouais. Sa dernière série en date pré-publiée dans le Flowers, qui est un magazine japonais qui appartient à la Shogakukan, pardon. Et c'était ultra kiffant à faire parce que c'est un manga sur la poterie. Et du coup, moi, je me suis prêté au jeu en faisant le logo de la couverture un peu en mode poterie, les textures un peu en mode peinture, etc. Et j'ai essayé de faire ça le plus finement possible en étant plus ou moins un peu imparfait, comme quand tu fais de la poterie. Voilà, c'est pas parfait parce que tu es un être humain et tu as des gestes très, très imparfaits, quoi.
Moi, je dirais les Junji Ito. Alors du coup, ce qui est un peu fourbe parce que c'est plein de titres différents à la fois, mais on va dire la collection Junji Ito dans son ensemble parce que... C'était un auteur que je connaissais juste de nom, dont j'avais jamais lu les œuvres avant, donc qu'on a réédité avant, qui était publié chez Delcourt Tonkam, et du coup qui est considéré comme le maître de l'horreur moderne au Japon. Ouais, qui a une carrière de plus de 30 ans là-bas. Et ça, ouais, moi, j'ai vraiment adoré parce que j'ai découvert un peu l'horreur psychologique. C'est pas vraiment gore, Junjito, c'est vraiment juste, c'est l'ambiance, en fait, un peu qui te met mal à l'aise. Mais ça, j'adore bosser dessus parce que c'est toujours des gros pavés de 400 pages. On accorde vraiment une attention toute particulière sur la fabrication parce qu'on est sur des ouvrages reliés en grand format, avec des dorures, plein d'effets de fabrication.
Un papier digne de ce nom aussi.
Voilà, un bon papier. Et surtout, j'adore bosser dessus parce que je travaille avec une équipe top d'un point de vue édito. Donc ça, c'est un titre que j'affectionne tout particulièrement.
Nous sommes les deuxièmes consommateurs de manga dans le monde, derrière le Japon. Et depuis plus de 30 ans, la France aime lire les mangas et je pense que c'est par rapport à la vibe des dessins animés japonais. Et ça se diversifie, ça se digitalise sur Webtoon, Picoma, si on doit en citer. Le chiffre que l'on peut donner, 6 742 617, le nombre de volumes de One Piece qui ont été vendus en France en 2022. Qu'est-ce qui attire à dévorer du manga ?
Moi, je pense que ce qui attire les mangas, c'est que très souvent, on n'a qu'un seul auteur, une histoire, plusieurs tomes, mais au moins c'est épisodique et t'arrives à suivre. Là où, par exemple, dans le comics, surtout le comics plus ou moins Marvel et DC, autour d'un seul et même personnage de super-héros, on aura un duo de scénaristes qui diffèrent d'une histoire à l'autre, un univers qui diffère d'un univers à l'autre, et c'est très compliqué à suivre, donc forcément, il y a une simplicité côté appréhension et compréhension de la diégèse de l'univers côté manga. Et après, oui, historiquement, maintenant, le manga fait partie du grand patrimoine de la pop culture française avec le Club Dorothée, je pense. Mais le manga, c'est juste que ça parle à un jeune public parce que il y a un côté humain, on va dire jeunes adolescents, qui touchent un public masculin et féminin, mais qui part des tout petits jusqu'au plus grand. Tu vois, tu peux trouver des petits enfants, par exemple, qui sont hype par une transformation dans One Piece ou dans Dragon Ball, qui peuvent avoir 13 ans, mais cette même hype, tu peux la retrouver des mecs qui ont plus de 20 ans, tu vois, ou plus de 30 ans, parce qu'il y a plus ou moins les mêmes sentiments et la même histoire qui est racontée. Ça, c'est le côté, on va dire, côté pop culture. Après, côté lecture, je pense que le confinement et TikTok y sont pour beaucoup. Après, le chiffre que tu as donné sur One Piece, il est intéressant, mais c'est parce que One Piece, c'est le manga le plus vendu en France. Globalement, est-ce qu'on est deuxième ? Alors, c'est très spéculatif, ce chiffre, j'en parlais en off avec mon ami Manu, parce qu'en fait, c'est un ratio qui est pris en compte, et oui, si tu prends le ratio, la France est deuxième. En revanche, si tu prends en termes de chiffres purs, sans partir du principe qu'il y a un ratio, les États-Unis, par rapport à sa superficie, et deuxième.
Mais pour répondre à ta question, Manu, je pense qu'est-ce qui pousse les gens à lire du manga, c'est la diversité, en fait, la diversité des genres, en fait, des histoires, des thématiques proposées. On va dire, du coup, pour dépasser un peu les catégories éditoriales, ouais, le manga, c'est vraiment plein de thématiques différentes. Il y a une accessibilité aussi, parce que si tu prends une BD, typiquement, c'est 15 euros la BD, et alors qu'un manga, c'est plus 6 euros, malheureusement, parce que les prix ont bien augmenté, mais on va dire, je vais donner un prix moyen de 7,50, 8 euros. Donc déjà, c'est un peu plus accessible, même si ça peut faire beaucoup de tomes et représenter un budget. Et puis aussi, ça se lit très rapidement. T'es plongé dans un univers hyper vite. Et je pense que par exemple pour les jeunes qui aiment pas forcément lire des bouquins, et qui aiment bien lire de la BD, ils peuvent se tourner aussi plus facilement vers le manga, quoi. Et lire du manga, de gens aigris peuvent le dire, ça reste de la lecture.
C'est comme les sneakers, hein. Les Nike, c'était à la mode même pendant les années 90, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un flambeau qui se passe parfaitement d'une génération à l'autre.
Avant de nous quitter avec elle et Carole, quelle serait votre question pour le prochain invité ou la prochaine invitée ?
Très bonne question, Manu. Bien, je pense que la question serait est-ce que le manga...
Est-ce qu'il peut être utilisé comme support par les professeurs dans l'école, vu que ça s'est généralisé beaucoup ?
Ouais, pour illustrer des propos et les utiliser comme sujet principal.
Merci beaucoup, Aïkal et Carole.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Bon, est-ce que Titeuf, c'est un bon manga ou pas ?
Eh bah, en vrai, on peut avoir un débat de ouf dessus, mais on va devoir cut. Mais
Merci beaucoup d'avoir écouté VTC. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet, un nouvel invité. À la technique, il y avait Jean et Kélian pour que cette émission soit diffusée sur les ondes de Radio Campus Paris. Philippe à l'antenne. Je vous laisse entre de bonnes mains sur Radio Campus Paris. Passez une excellente soirée et je vous dis, prenez soin de vous.